Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin nous sommes en compagnie de Raphaël Ziadeh pour évoquer ensemble la tradition des icônes au sein des églises d'Orient. Les églises catholiques, les églises orthodoxes, ce sont des images peintes qui représentent des personnages saints et qui sont offertes aux fidèles comme objets de vénération. Des objets qui nous racontent aussi une histoire. Raphaël Ziadeh, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur en histoire des religions et responsable des collections d'art byzantin du Petit Palais à Paris. Vous avez fait votre thèse sur la fête des martyrs d'après les prédications de Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions, dont celle sur le mont Athos, trésor de la Sainte Montagne, en 2009. Ou encore Dieu, mode d'emploi au Petit Palais. Exposition, je me permets cette parenthèse, qui a véritablement marqué les esprits. Vous avez aussi travaillé avec l'Institut du Monde Arabe pour la très belle exposition d'il y a déjà 2 ou 3 ans sur les chrétiens d'Orient. Alors ce matin, vous allez nous exposer le principe même qui définit la valeur théologique des icônes. En général, avant de nous présenter un travail de restauration que vous effectuez actuellement sur une icône maronite. Alors j'ai eu la chance de la voir il y a quelque temps au Petit Palais. Elle est assez impressionnante. Elle mesure 1,80 m de haut et vous nous en direz un tout petit peu plus dans la seconde partie de cette émission. Alors les icônes, de quoi s'agit-il ?
Alors les icônes, ce sont des panneaux de bois peints qui représentent le Christ, la Vierge et les saints, et qui ont une grande ancienneté dans l'histoire de l'Église. Les plus anciens panneaux que l'on possède datent du VIe siècle. Il y en a assez peu, mais on les trouve d'une part à Rome, dans les églises, comme à Santa Maria du Trastevere, où il y a une grande icône de la Vierge entourée des anges, ou encore au monastère Sainte-Catherine du Sinaï en Égypte, qui conserve des icônes du VIe siècle très importantes, dont un grand pantocrator, un portrait du Christ, merveilleux de présence, extrêmement majestueux, qui a certainement été offert par Justinien au moment de la fondation du monastère, fondation qu'il a entreprise. Alors ces conservatoires nous permettent de toucher aux origines des icônes, car ces œuvres fragiles, peintes sur bois, ont été détruites ensuite pendant la crise iconoclaste qui a secoué l'Empire byzantin au 8e, 9e siècle. Enfin, voilà. C'était une crise déclenchée par les empereurs chrétiens eux-mêmes au sein de l'Empire chrétien contre ces images au prétexte d'idolâtrie. Cette crise a eu pour une vertu, c'est d'avoir permis la naissance d'une théologie de l'image. Les pères de l'Église ont voulu défendre ces images détruites, attaquées, et ont fait valoir qu'elles avaient une importance pour les chrétiens tout aussi importante que les évangiles. C'est une théologie très audacieuse que de placer l'image au même plan que le texte. Et c'est ce qu'ils ont fait, en particulier Jean de Damas, Jean Damascène, qui vivait d'ailleurs au contact des musulmans. Il était au service des califes Omeyyades qui avaient pris la place des Byzantins dans l'Orient romain.
Alors sur cette introduction de l'image dans le culte, dans cette foi qui était, dont les termes étaient encore en cours de définition, je dois préciser que je suis allé moi-même à Sainte-Catherine. J'ai eu cette chance de traverser le Sinaï il y a pas mal d'années et d'avoir vu cette icône du Pantocrator. Et c'est vrai qu'on ne peut pas la dissocier avec les images qu'on trouvait déjà en Égypte, c'est-à-dire ces portraits peints à l'époque ptolémaïque, je crois, le portrait du Fayoum. Est-ce qu'il y a une continuité, pensez-vous, historique entre ces deux phénomènes ?
Tout à fait. Même si on n'a pas d'icônes chrétiennes, hein, vraiment au sens chrétien, avant le VIe siècle, on a toute une série d'indices qui nous font penser qu'il y avait des icônes avant le VIe, dans le culte chrétien, et également que ces images sont en contact avec ce qui se faisait dans le monde gréco-romain. On pense qu'il y avait des icônes déjà au IVe siècle, par des traces dans les textes des pères de l'Église qui signalent qu'ils ont été en contact avec telle ou telle image. On voit bien qu'il s'agit d'un portrait plutôt que d'une fresque, par exemple. Donc, et par ailleurs, on voit bien matériellement qu'il y a une continuité dans ces panneaux mobiles peints sur bois, qui sont des portraits avec toute une série de portraits de l'Antiquité. Alors, d'une part, les portraits funéraires du Fayoum, auxquels vous faites allusion. Donc, on a voulu, entre le 1er et le 4e siècle, dans l'Égypte gréco-romaine, immortaliser les défunts par un portrait qu'on mettait sur les tombes ou qu'on glissait à l'intérieur du sarcophage, au niveau de la tête du défunt. Il y a aussi tous les portraits impériaux, le culte impérial, dans l'Empire romain. On faisait le portrait des empereurs et il y avait un culte de ces portraits. Et également, on a, et ça c'est un peu moins connu, des images de divinités gréco-romaines qui étaient posées dans les temples et qui servaient d'ex-voto. On posait le portrait de la divinité en remerciement d'un vœu exaucé. Et ça, on en a beaucoup de traces en Égypte aussi.
Alors vous nous parliez tout à l'heure de théologie, cette théologie des icônes, je le mentionnais moi-même dans ma courte introduction. Quelle valeur théologique ont ces icônes qui, de manière traditionnelle, sont plutôt importantes dans le monde orthodoxe, mais on va le voir bien entendu tout à l'heure avec cette icône maronite, elle existe aussi dans les églises catholiques, alors plutôt de rites orientaux. Quelle est la valeur théologique, symbolique de ces icônes?
Alors elle est très très importante, on la comprend quand on voit comment l'icône est associée à la liturgie des fêtes chrétiennes. Alors tout d'abord, à chaque fête correspond une icône. Il y a forcément une image en lien. Ensuite, elles sont omniprésentes dans les églises, proposées à la vénération des fidèles. On les met sur les iconostases, cette cloison de bois qui sépare le cœur de l'assemblée. On les propose à la vénération sur des pupitres aussi, placés devant les iconostases, et les fidèles se prosternent, embrassent les icônes. On leur prête des vertus miraculeuses. Il y a toute une série de textes légendaires sur les icônes qui guérissent, les icônes qui se déplacent, en particulier les icônes de la Vierge. Pour échapper par exemple à la crise iconoclaste, des icônes de la Vierge ont quitté Constantinople pour se réfugier au mont Athos, par exemple, d'elle-même. On sait que les personnes allaient jusqu'à ingérer des morceaux d'icônes en grattant la peinture ou l'or pour se guérir. Donc ces images ont non seulement une importance théologique, car elles participent de la révélation, elles sont porteuses d'une vérité comme le texte, les textes sacrés, mais également elles ont des vertus. Elles accompagnent le fidèle tout au long de sa vie.
Alors en quelques mots, l'iconoclasme est né d'où, d'un refus de l'idolâtrie de ces images?
Oui, tout à fait. Il y a une sorte de courant de pensée majoritaire, on pourrait dire mainstream, dans la Méditerranée orientale, à la fin du 7e, au 8e siècle, d'ailleurs au moment où l'islam développe sa propre théologie. Donc il y a une sorte de courant de pensée. Les empereurs byzantins estiment que la vénération des icônes a dépassé les bornes, que c'est devenu de l'idolâtrie, qu'on adore l'objet, sans plus de rapport avec les saints, voilà, de ce qu'on appelle le prototype, ce à quoi renvoie l'objet. Donc c'est vraiment une adoration de matériel qui est dénoncée. C'est certainement aussi une volonté de contrer le pouvoir monastique de la part du régime politique, car les monastères tirent un profit de la vénération des icônes qu'ils conservent, comme des reliques. D'ailleurs, c'est la même question pour les reliques, hein, qui vont être détruites aussi pendant cette crise iconoclaste. Donc, on ne peut pas ne pas observer qu'au même moment, dans l'islam, la figuration humaine est interdite aussi. Donc il y a une sorte de convergence de pensée à cette époque, pour éviter toute image animée.
Alors Raphaël Ziadé, je parlais tout à l'heure de votre rôle au sein du Petit Palais, donc on évoquait cette collection extraordinaire, que je crois qui est assez rare dans les collections publiques françaises, hein, la collection d'art byzantin et d'icônes. Vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent particulièrement au Petit Palais pour voir cette collection?
Ah oui, c'est vraiment une salle, une très belle salle, nouvelle muséographie qui attire beaucoup de monde. Les amateurs viennent exprès au Petit Palais, demandent la salle des icônes. Et j'ai eu aussi le grand plaisir de croiser des professeurs de terminale, de lycées parisiens publics, qui ont emmené leurs élèves travailler sur la collection l'année dernière, où l'art sacré était au programme du bac. Et donc les icônes du Petit Palais ont été présentées au professeur au jury du bac dans l'option Histoire des Arts.
Alors, je voudrais saluer aussi Ferrante Ferranti, dont on peut voir les images qui défilent dans un film qui est extraordinaire, qui accompagne aussi cette mise en scène de ces icônes. Enfin, mise en scène est un peu exagérée, mais disons cette présentation, parce que la salle est effectivement somptueuse. On a presque envie même de se recueillir, tellement elle est touchante. Les visiteurs viennent pour voir les collections effectivement du Petit Palais. Mais est-ce qu'ils ont conscience que cette collection est finalement assez rare?
Je pense que oui, parce que on n'a pas d'équivalent dans les collections publiques françaises. Aucun musée ne présente à l'heure actuelle d'icônes. Le Louvre en a 35 et on présente une petite quinzaine dans une salle qui n'est pas toujours ouverte. Donc vraiment, le Petit Palais aujourd'hui, c'est le lieu en France où on peut s'initier à l'histoire de l'icône, comparer les différentes écoles russe, crétoise, grecque. On a aussi voulu mettre en avant l'aspect culturel de ces icônes avec toute notre collection d'icônes familiales, des icônes de petit format qui sont offertes pour les naissances, pour les mariages, et là on en a toute une série. Et on a voulu contextualiser ces icônes, montrer comment ça fonctionne dans le culte grâce à ces photos de Ferrante Ferranti qui accueillent le visiteur à l'entrée de la salle et qui montrent comment ces icônes vivent à l'intérieur des églises, dans toute cette géographie byzantine qui va de la Grèce mais qui passe par la Russie et qui va jusqu'en Éthiopie. C'est-à-dire un fond commun qu'on dit byzantin mais qui est le fond de l'Empire romain chrétien.
Une icône m'a particulièrement marqué, une icône récente qui a été faite il y a quelques années, j'imagine, qui montre l'exécution de ces martyrs d'origine éthiopienne, je crois bien, sur une plage libyenne, donc par l'organisation Daesh il y a quelques années. Donc, ce qui veut dire aussi que cet art de la représentation par l'icône, par l'image, en fait, continue.
Oui, l'art de l'icône ne s'est jamais arrêté et continue donc à inspirer des iconographes, des peintres d'icônes. Et ce dont vous parlez, c'est notre dernière acquisition. C'est un achat que nous avons fait à un jeune peintre serbe qui vit en Allemagne, Nicolas Saric, et qui représente l'exécution de 21 ouvriers coptes sur une plage de Libye par Daesh. Et ce jeune peintre serbe a utilisé la vidéo de l'exécution qui a tourné sur Internet et tous les détails sont reproduits à la lettre, mais interprétés selon la martyrologie chrétienne, c'est-à-dire que le Christ est figuré dans cette image, il assiste les ouvriers coptes et il les recueille dans ses bras.
Alors Raphaël Ziadé, nous allons revenir au Liban maintenant avec cette grande icône qui est une représentation de la Dormition de la Vierge, alors qui est évidemment visible en ce moment au Petit Palais et pour de longs mois encore à venir avant qu'elle puisse retrouver sa place au patriarcat maronite à Beyrouth. Quelques mots sur cette icône, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui marquent. D'abord, c'est sa taille. Une 1m80, et sa datation. On est au tout début du XVIe siècle, à une époque où on ne pensait pas qu'il y avait d'icône encore, c'est-à-dire avant la Renaissance du XVIIe siècle.
C'est une icône exceptionnelle qui renouvelle la compréhension de l'art chrétien au Levant à partir du XVIe siècle. Alors, elle est exceptionnelle par sa taille. 1m80, c'est tout à fait inhabituel pour une icône. Les plus grandes ne dépassent pas un mètre en général, donc là on a presque 2 mètres. Et elle vient du patriarcat maronite. Là aussi, c'est une surprise. Les maronites, qui sont des catholiques rattachés à Rome depuis le Moyen Âge, ne sont pas connus pour leurs icônes, qui sont plutôt orthodoxes. Et d'autre part, elle a une inscription. Une inscription en syriaque, la langue liturgique des maronites, avec une date, ce qui est extraordinaire. Et deux donateurs, c'est-à-dire les deux personnes qui ont commandé cette icône, qui sont figurées dans le bas. Et la restauration que nous avons conduite au Petit Palais a permis aussi une étude de tous ces éléments. Et nous avons lu l'inscription et déchiffré la date, qui pose quelques questions. On peut lire 1583 ou 1523, ce qui est quand même pas tout à fait pareil, le début ou la fin du XVIe siècle. Mais en l'examinant, non pas sur photo, mais vraiment sur l'icône elle-même, l'épigraphiste qui l'a déchiffré, aidé de la restauratrice, avec de la lumière rasante, de la lumière UV, du microscope, a établi qu'il s'agissait certainement de 1523. Et alors là, c'est vraiment, je dirais, pour un historien de l'art, une immense surprise. Car on n'a pas, au Levant, d'icônes et même d'images entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle. Ce sont les trous noirs, les années noires, dues à la présence des mamelouks, qui font que l'art s'est arrêté. On n'a pas même de fresques dans la montagne, alors qu'on en a beaucoup à l'époque des croisés. Donc tout d'un coup, on a cette œuvre qui surgit dans l'histoire et qui nous fait reconsidérer un peu ce que nous pensions de l'art de ces communautés, donc dans ce qui est tout, en fait le tout début de l'Empire ottoman. Alors, autre surprise, c'est de voir des donateurs dessus. Des donateurs en habit liturgique, un vieillard et un plus jeune, et un prêtre plus jeune, et qui ont leur nom dans la signature, tout en bas à droite. Et ils sont en habit liturgique, et ils sont en habit maronite, probablement, puisque l'évêque a une mitre latine, conique, très différente des mitres orthodoxes qui sont rondes. Donc, entre le fait que cette icône soit au patriarcat maronite, certainement depuis toujours, qu'elle ait une inscription en syriaque, la langue des maronites, qu'elle ait un évêque avec un habit romain, et on sait que Rome envoyait des habits depuis le Moyen-Âge, aux maronites au Liban, voilà, tout ça fait qu'on a une icône maronite, ce qui n'est pas du tout anecdotique, puisque à partir de la fin du XVIe siècle, sous l'influence des missionnaires qui apportent des bibles avec des gravures occidentales, les maronites vont complètement changer d'art et adopter un art de type occidental.
Donc c'est avant en fait la latinisation massive de représentations et de l'art, voire même de la liturgie maronite.
Exactement, on est juste avant.
Donc et une période charnière qui, vous, en tant qu'historienne, vous permet de comprendre que voilà, il y a eu une expression artistique un peu plus authentique, peut-être jusqu'au dernier moment.
Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à cette latinisation, les maronites ont eu, comme les autres communautés chrétiennes orientales, un fond commun d'images qu'on appelle byzantin, c'est-à-dire cet art chrétien né dans l'Empire byzantin. Et ils l'ont eu comme les autres. Voilà. C'était le fond commun de toutes ces communautés. Et d'ailleurs, quand on regarde les églises maronites médiévales, au Liban, on trouve une dormition. Donc, c'est-à-dire cette façon byzantine d'illustrer la mort de la Vierge.
Oui, il faut nous en dire quand même quelques mots, parce que cette mort de la Vierge, donc, qui est célébrée le 15 août hein, dans les églises d'Orient, de quoi s'agit-il ?
Alors cette icône, elle illustre de façon tout à fait canonique, c'est-à-dire sans variation, hein, le modèle initial de l'image qui exprime ce moment où la Vierge a quitté ce monde. Alors la croyance ancienne des chrétiens, c'est que la Vierge a quitté ce monde sans passer par la corruption du tombeau et en ayant son âme et ou son corps qui monte au ciel. Alors, on a toute une série de textes littéraires avec beaucoup de variantes, mais le fond commun, quand même, de la croyance, en Occident comme en Orient, c'est que la Vierge n'est pas restée dans le tombeau. Et ce que montre cette image, c'est la Vierge qui repose sur son lit mortuaire. Elle est entourée par l'ensemble des apôtres, qui se réunissent de façon miraculeuse, Pierre et Paul en particulier, de chaque côté de son corps. Les premiers évêques de l'Église, là il y en a deux, parfois il y en a quatre. Et donc elle est bien morte, on le voit, hein. Enfin, en tout cas elle est dans un repos. Voilà, elle a quitté cette vie terrestre. Elle est allongée les yeux fermés et au-dessus d'elle, dans une plus grande taille, il y a le Christ qui apparaît dans une mandorle. Les textes disent qu'il est dans une grande lumière. Enfin, il est invisible, mais il est manifesté par une grande lumière. La mandorle, c'est cette aura bleue qui signifie sa présence théophanique, hein, son statut divin. Il y a des anges, d'ailleurs, dans cette mandorle, traités en grisaille, presque en transparence, qui montrent leur corps céleste. Et le Christ tient dans ses mains un enfant emmailloté. Et cet enfant emmailloté, c'est l'âme de la Vierge qu'il accueille dans l'éternité. À la façon des anciens dieux, les dieux psychopompes, les conducteurs des âmes, Anubis dans la mythologie égyptienne ou Hermès dans la mythologie grecque.
Alors Raphaël Ziadeh, un dernier petit mot en tant que responsable de ce département d'art byzantin au Petit Palais. On vous imagine certainement très heureuse d'héberger cette icône pour quelque temps, mais il faudra bien un jour la renvoyer au Liban quand même.
Oui, c'était d'ailleurs prévu. Elle devait repartir le 31 mars à la suite de son exposition au Petit Palais. Et c'est arrivé donc en plein coronavirus. Donc nous avons différé ce retour. Puis il y a eu l'explosion du port de Beyrouth et les difficultés économiques que traverse le Liban. Donc nous avons décidé de la garder encore un peu en France, mais il est bien évident qu'elle doit regagner le Liban et être rendue aux Libanais.
Donc quelques mois encore pour la voir au Petit Palais à Paris. Raphaël Ziadeh, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à notre micro. Je remercie François Connac, Claire Poinsignan et Pierre Monteil pour la technique et la réalisation de cette émission. Restez sur France Culture, nous retrouvons maintenant le service protestant.
Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παθών μεταρά τους η προσβολέ, πολλής αθυμίας εμπυπνώσε μου την ψυχή, ειρήνευσον κόρη τη γαλλία.